Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il serait 11 millions en France, 11 millions de personnes qui aideraient un proche en situation de fragilité, maladie, vieillesse ou handicap. 11 millions de Français que l'on appelle des aidants familiaux, des hommes et des femmes qui rendent un grand service à leurs proches et par là même un grand service à la société française. Des aidants qui, bien que de plus en plus considérés par les pouvoirs publics et les entreprises, souffrent souvent d'incompréhension, d'isolement, ont l'impression de gravir une montagne en solo ou presque. Alors pour les accompagner un bout de chemin et leur donner la parole, cette émission Vivante Église. Aidants familiaux, aimer sans s'épuiser, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On ne cesse de vous faire de la publicité en vue de cette journée qu'on a largement annoncée en partenariat donc avec l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées et les associations familiales, qui a lieu donc samedi prochain. On donnera toutes les informations sur le même thème, aimer sans s'épuiser. Autour du plateau, pour nous en parler, Thierry Calva, vous êtes sociologue, coach et auteur d'un ouvrage, Le droit à la vulnérabilité, paru aux éditions Michelon. Bonjour.
Bonjour.
Elisabeth de Beaurepaire, vous êtes psychomotricienne. Bonjour.
Bonjour.
José Resson, vous êtes diacre et aidant familial. Vous l'avez été pour votre épouse, entre autres. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Benoît Pinxon-Ducel, qui nous rejoindra un petit peu plus tard, qui est aidant familial aussi, lui, pour son fils. On va commencer avec vous, Thierry Calva, puisque vous êtes avec nous au début de cette émission, à propos donc des aidants familiaux. On va commencer tout simplement par essayer d'éclairer ce chiffre que j'ai cité, que j'ai trouvé dans plusieurs interviews, entre autres de vous. 11 millions de personnes qui seraient concernées, ça paraît beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce chiffre et puis quel type de situation ça recouvre ?
Alors, ce que je peux vous dire de chiffre qui peut paraître effectivement en première approche extrêmement élevé, en fait, on est une fourchette entre 8 et 11 millions de personnes. La dernière étude qui a été réalisée un peu solide et robuste sur la question date de 2008, où elle pointait plutôt à l'époque 8 millions de personnes. Donc, on est de toute façon sur un phénomène assez conséquent au-delà du chiffre, de la bataille de chiffres. Et c'est des situations qui, en fait, ce qui rend la reconnaissance même par les pouvoirs publics délicate, et par les professionnels de santé aussi, et par la même par la société, c'est qu'elle recouvre des multiplicités de situations extrêmement singulières. C'est-à-dire que dans la même famille de ces 8 à 11 millions de personnes, vous avez, et je crois d'ailleurs que ça a été annoncé, j'entendais la promotion de la journée formidable que vous organisez, ça a été dit, on a une multiplicité de situations, c'est-à-dire que, est aidant familial ou proche aidant, une mère de famille ou un père de famille qui accompagne un enfant en situation de handicap, un fils ou une fille qui accompagne un parent âgé, ou un conjoint qui va accompagner son conjoint qui est dans une situation de maladie. Et ces situations-là font que les personnes elles-mêmes ne vont pas se sentir aidant de la même façon.
Alors
c'est une des caractéristiques.
C'est ce qu'on lit entre autres dans certaines de vos interviews, c'est qu'il y a des aidants qui s'ignorent, c'est ça ?
Alors, il y a des aidants qui s'ignorent, il y a des aidants qui ne veulent pas être considérés comme des aidants, c'est-à-dire vous avez aujourd'hui beaucoup de parents, par exemple, qui ne considèrent pas qu'ils sont aidants, ils sont parents avant tout. Et donc par là même, on pourra toujours les classer hein, dans cette catégorie d'aidants, ils ne se sentiront pas aidants. Et puis, simplement, ce que je voudrais rajouter, c'est que sur ces 11 millions de personnes, vous avez, au-delà de la relation que vous entretenez avec le proche que vous accompagnez, vous avez des différents types de situations pour les aidants eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle les aidants principaux et les aidants secondaires. Les aidants principaux, c'est ceux sur qui le poids de l'aide repose le plus fortement. Les aidants secondaires étant ceux qui sont finalement les auxiliaires d'autres aidants. Et au sein des personnes de ces aidants, vous avez aussi des aidants principaux isolés, c'est-à-dire qui n'ont personne qui peut à un moment donné prendre le relais, les aider, soit pour des questions familiales, soit pour des questions géographiques. Il ne faut jamais oublier qu'on est en France, dans un pays où le célibat géographique, notamment dans le domaine du travail,
oui,
concerne plus de un cadre sur 10. Alors, par exemple, vous voyez, on est vraiment sur une évolution forte.
Alors Thierry Calva, beaucoup de questions autour de ça. Il y en a peut-être une première toute simple, c'est qu'on se dit pendant des générations, on a aidé sa mère qui était malade, on a accompagné son fils ou sa fille qui était handicapé et on n'avait pas besoin de se faire appeler aidant familial. Quelle est la vertu un peu de ce qui peut paraître, pardon, parce que vous êtes sociologue et j'ai beaucoup de respect pour les sociologues, mais comme une catégorie sociologique supplémentaire?
Ah ben
quel est l'intérêt pour la société française de nommer comme ça, on va dire, ce type de situation?
On est dans un classement que certains ne veulent pas, mais qui est néanmoins nécessaire si on veut catégoriser, tel que vous le dites, une communauté de gestes. En fait, on a un effet qui est un effet de personnes qui vont se reconnaître dans une communauté de gestes. Et quand je dis se reconnaître, c'est-à-dire qu'ils vont être repérables dans la communauté de gestes. Et cette communauté de gestes consiste à aider. Elle n'est pas nouvelle, hein, c'est ce que vous évoquiez. On la trouve déjà même chez saint Augustin. Dans la doctrine chrétienne, saint Augustin fait dire à un disciple, fait interroger un disciple. Il interroge Jésus et il lui demande qui est mon proche. Et Jésus lui répond, ne te demande pas qui est ton proche, mais sois le proche de celui qui en a besoin. Vous voyez, la thématique est assez ancienne. Donc en fait, cette catégorie, elle est utile parce que on est aujourd'hui d'abord confronté à un problème inédit, qui est celui du vieillissement, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant vieilli et aussi longtemps.
Vous dites qu'il y a un effet de ciseau, alors ça peut paraître jargonneux, mais expliquez-le.
Ah, sur l'aspect ciseau démographique?
Alors oui.
Le fameux ciseau démographique,
Ça vaut le coup d'en redire un mot, même si on est au courant, pour beaucoup on est au courant, mais...
Voilà, on peut en parler. En fait, on a d'un côté une vague démographique qui est le fait que vous avez de plus en plus de gens qui vieillissent et qui font que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à un horizon de 20 ans, on aura une population de personne de plus de 60 ans qui représentera à peu près un tiers du pays. Donc il y a cette vague démographique et parallèlement, vous avez moins d'enfants et vous avez donc moins de personnes en situation d'aide. C'est pour ça qu'on parle de ciseau démographique, c'est que le potentiel de personnes en situation d'aider va avoir tendance progressivement à se tarir. C'est-à-dire que les 8 à 11 millions de gens dont on parle aujourd'hui, les études... concordent à peu près toutes pour dire qu'on n'excédera pas dans un terme de à 20 ans les 12 à 14 millions de personnes. Ça n'ira guère au-delà, simplement parce qu'on n'aura pas les ressources.
Thierry Calva, dans votre ouvrage « Le droit à la vulnérabilité », dans votre introduction, vous dites une chose qui m'a frappé. Vous dites qu'aujourd'hui, notre époque est au progrès de la médecine, des politiques publiques de santé, de l'État-providence, mais que quelque part, ça aurait un effet néfaste. C'est que le prix de la relation serait de plus en plus... Enfin bref, l'idée de... je vous cite plutôt, un progrès incontestable, mais dont le prix, donc c'est progrès de la médecine, développement de la santé, de l'État-providence, un progrès incontestable, mais dont le prix est une relation de plus en plus difficile avec l'idée même de fragilité. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'on a délégué en fait la charité, on ne veut plus voir la fragilité parce qu'il y aurait des institutions qui en seraient responsables?
Alors oui, on peut le voir comme ça au moment où ça a été rédigé. En fait, l'idée c'est que plus les progrès de la médecine sont importants et plus l'idée même que l'individu puisse être fragile s'éloigne. C'est-à-dire qu'en fait...
Parlez bien près du micro, parlez bien près du micro pour qu'on vous entende.
Vous m'entendez?
Allez-y,
vous
continuez.
M'entendez bien?
Oui, continuez.
Bon, je disais donc que par rapport à ça, en fait, c'est une idée assez simple, c'est que plus l'homme est guéri par la médecine, plus le risque de se retrouver en situation de fragilité va paraître une bizarrerie. Vous voyez, ça ne rentre pas dans le schéma mental de l'opinion publique. Plus vous allez renforcer l'idée que vous maîtrisez votre vieillissement, notamment à travers le terme de bien vieillir, vous savez, vous avez beaucoup de programmes là-dedans, plus vous dites aux gens que vous les guérissez, et plus l'idée d'être fragile, donc d'être fragilisé par la maladie, devient quelque chose d'impensé et finalement d'insolite. Et on voit bien que la relation d'aide, en fait, ce qui est à la fois terrible, parfois, hein, dans l'épuisement qu'elle peut amener, mais en même temps formidable dans ce qu'elle peut amener aussi à celui qui aide, c'est qu'elle elle est ni plus ni moins que la démonstration que nous avons tout un chacun du besoin à être aidé. Et que la vulnérabilité, la fragilité, c'est d'abord un besoin à être aidé. Et que ce besoin à être aidé-là, la situation d'aide familiale le révèle. Vous avez un débat actuellement, je ne sais pas s'il a été suivi par vos auditeurs, autour de la terminologie des personnes dites « dépendantes ». Aujourd'hui le Haut Conseil de l'âge propose de changer la terminologie de personne dépendante en personne vulnérable. ce qui est sans doute un débat intéressant, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, la dépendance en tant que telle, c'est ni plus ni moins que la reconnaissance du besoin à être aidé. Et on voit bien que si on veut changer le terme, c'est que notre société n'est pas prête à reconnaître ce besoin-là. Voilà, c'est pour ça que... Et pourtant, c'est celui qui fait relation. C'est-à-dire que ce qui crée la sociabilité, ce qui crée l'humanité aussi, et avec derrière l'idée d'altérité, c'est le besoin à être aidé, et ce besoin à être aidé me pousse finalement vers l'autre.
Cette interdépendance. Alors, les aidants familiaux, donc on en parle de plus en plus. J'ai même vu qu'il y avait une journée maintenant nationale des aidants familiaux. La dernière, c'était le 6 octobre 2019. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui existe très, très concrètement? On va dire, si on commence par du côté des pouvoirs publics, pour les aidants familiaux, j'ai vu qu'il y avait un congé indemnité qui a été mis en place. C'est une création récente. Expliquez-nous peut-être les 2-3 dispositions légales récentes ou accompagnement des pouvoirs publics.
Alors, vous avez la stratégie de mobilisation nationale en faveur des aidants qui a été présentée en novembre dernier par le gouvernement et qui, effectivement, a fixé quelques avancées. Certains les jugeront finalement insuffisantes, mais en tout cas, quelques avancées importantes. Dans le domaine du travail, qui est un problème qui concerne un aidant sur deux, hein, c'est un actif sur quatre, mais ça concerne un aidant sur deux, vous avez effectivement le congé, qui est un congé indemnisé, un peu sur le modèle, un peu balbutiant, mais un peu sur le modèle du congé maternité, où l'aidant peut s'absenter pendant 3 mois en restant indemnisé par son entreprise. L'indemnisation reste faible, mais en même temps, ça a été présenté comme une expérimentation, puisque auparavant, il existait un congé d'aidant, mais qui n'était pas indemnisé. Vous avez ce premier champ-là, et avec la possibilité d'avoir ce droit dès que vous entrez dans une entreprise, et non plus, comme la loi le prévoyait, la nécessité d'attendre 1 an d'ancienneté pour pouvoir en bénéficier.
Donc le premier point, congé indemnité, 3 mois, avec une indemnisation de la part de l'entreprise, mais qui est relativement faible, c'est ça ?
Voilà, qui est relativement faible, qui est sur un montant qui n'a pas été encore défini, mais qui va se promener aux alentours de 45 à 50 euros.
D'accord, jour, on imagine, oui, d'accord, bon. Quand même. Oui. Alors que ça, c'est une première grande disposition, c'est déjà beaucoup.
Ça, c'est une première grande disposition.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette stratégie nationale?
Vous avez une deuxième disposition intéressante, qui est la tentative de généralisation des centres de répit et des possibilités de répit, avec plusieurs expérimentations à l'œuvre. Soit vous allez dans un centre de répit où vous pouvez laisser votre proche, ou aller avec lui, qui est un modèle qui est, par exemple, qui a été développé à Lyon, qui est Métropole Aidante, qui est développé à Lyon, qui est un centre de répit. Et sinon, autre type d'expérimentation, c'est directement venu du Québec, c'est le baluchonnage. C'est le baluchonnage, c'est la possibilité que vous avez à accueillir chez vous une personne qui, pendant une période donnée, qui est de l'ordre de quelques jours, hein, voire une à deux semaines, va s'occuper de votre proche et vous libérer, vous permettre de partir en vacances, de faire autre chose.
Donc là, c'est une espèce de réseau qui se mettrait en place, qui serait quoi, un réseau de bénévolat, ou c'est des professionnels?
Non, c'est plutôt des professionnels, et toute la problématique, c'est celle du droit du travail. C'est-à-dire qu'au Québec, le droit du travail est beaucoup plus souple qu'en France, et en France, vous ne pouvez pas travailler 24 heures sur 24. Et là, vous rentrez dans une... Alors, c'est des arguments très techniques, hein, je voudrais pas non plus rentrer dans une argumentation trop technique, mais le droit du travail en France, jusque-là, empêchait la possibilité de développer ce type de dispositif, tout simplement parce que la personne ne peut pas travailler plus de 24 heures d'affilée.
Alors, Thierry Calva,
donc là, il y a une expérimentation.
Vous, donc, vous intervenez auprès des entreprises. D'ailleurs, le sous-titre de votre livre, Le droit à la vulnérabilité, s'appelle Manager les fragilités en entreprise. Donc, à vous lire, et c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, la vulnérabilité n'est pas la première chose dont on parle en entreprise ou la première chose acceptée. Je lisais entre autres un article sur les pères qui sont aidants familiaux. Alors ça tient peut-être au tempérament des hommes, mais qui parfois n'en parlent même pas dans le cadre de l'entreprise, de peur d'être regardé bizarrement, d'être sanctionné dans l'évolution professionnelle, etc. Vous vous appelez à une petite révolution. Est-ce que, on va dire, l'idée prend, vous y œuvrez, et puis on imagine que vous êtes nombreux à le faire, à essayer de faire en sorte que cette vulnérabilité, les aidants familiaux, soient pas regardés de travers en entreprise. Où est-ce qu'on en est un petit peu?
Ah ben, l'idée prend progressivement, c'est-à-dire qu'il y a un prix qui a été créé, qui est le prix entreprise et salarié, donc qui chaque année récompense, donc on est dans une démarche d'exemplarité, hein, récompense des entreprises qui mettent en place des dispositifs à destination des aidants. Il va y avoir le quatrième prix va avoir lieu cette année, hein, donc qui a récompensé les entreprises, entre guillemets, un peu méritantes dans ce domaine, ou en tout cas innovantes dans ce domaine. Ça, c'est un premier champ. Et il y a un deuxième champ de réflexion qui est mené par des instances et des cercles de réflexion, dont un que j'anime, qui s'appelle le cercle vulnérabilité de société, sur lequel on travaille sur le lien assez étroit et de plus en plus étroit et de plus en plus évident dans la tête de beaucoup de dirigeants entre gestion de vulnérabilité et finalement gestion d'entreprise. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a la question des aidants familiaux, mais au-delà de la question des aidants familiaux, vous avez toute une série de vulnérabilités parfois invisibles, hein, dans les entreprises qui tiennent à des personnes malades. Qui sont donc vous avez les aidants, vous avez des personnes malades, vous avez des personnes en situation de grande précarité, vous avez des situations de personnes qui sont décrochage social. Donc vous avez une multiplicité de situations de vulnérabilité qui sont aujourd'hui difficilement masquables par l'entreprise, et donc il faut qu'elle en prenne conscience puisqu'elle s'adresse à quasiment l'intégralité de ses ressources. Et donc aujourd'hui, la fragilité, donc moi la réflexion a un peu évolué. Évidemment, on évoque un livre qui date quasiment il y a 10 ans, mais aujourd'hui la réflexion s'oriente vers l'utilisation, l'exploitation, j'ose le dire, du potentiel de transformation que rend possible la fragilité dans les organisations. Il s'agit plus simplement de tendre la main à des personnes pour des questions morales, hein, qui sont tout à fait intéressantes, des questions de bon cœur, ce qui est souvent l'argument qu'on agite, mais aussi pour des raisons qui sont des raisons de productivité, de compétitivité.
Voilà, j'ai
tout le
souvi...
pari, tout le...
Allez-y, finissez,
Oui,
pardon.
mais ça, je finis, hein, tout le pari qu'on fait, je dis on parce qu'on est plusieurs sur cette ligne-là, qu'on fait, c'est que l'entreprise réellement inclusive, puisqu'il est souvent question d'inclusion, et l'entreprise qui saura inclure les aidants, c'est aussi celle qui saura accueillir la contribution qui est la leur, puisqu'on sait aussi, vous avez une littérature internationale assez importante sur le sujet, c'est que les aidants développent, de par la situation à laquelle ils sont confrontés, des compétences qui sont des compétences qui sont aujourd'hui, qui échappent aujourd'hui totalement au radar de l'entreprise, alors qu'elle pourrait effectivement en bénéficier. Et on serait dans un rapport qui serait plutôt un rapport de gagnant-gagnant, plutôt qu'un rapport qui est aujourd'hui un rapport un peu asymétrique dans l'aide qu'on peut apporter.
J'ai souvenir, j'allais dire, donc j'ai souvenir d'un autre invité dans une émission sur un thème proche qui disait que quand on voit un patron qui s'occupe avec, on va dire, soin et attention et estime de la personne la plus fragile dans l'entreprise, tout d'un coup tout le monde se détend et ça donne aussi ça donne des ailes parfois pour travailler.
Bien
Vous
sûr,
dites
tout à
aussi dans
fait.
votre ouvrage, et cette fois c'est dans la conclusion, qu'à l'heure du désenchantement quant aux grandes aventures collectives, si la vulnérabilité avait de la place dans l'entreprise, eh bien peut-être que les entreprises feraient à nouveau rêver les salariés. Merci beaucoup Thierry Calva. On va faire une première pause. Je rappelle
Merci à
le
vous.
titre de votre livre, même s'il date. Il faut quand même le lire. Le droit à la vulnérabilité, manager les fragilités en entreprise, paru aux éditions Michalon.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Aidants familiaux, aimer sans s'épuiser, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en vue, entre autres, donc, ou motivée cette émission par une prochaine journée sur le même thème organisée donc par l'Office chrétien des personnes handicapées et les AFC, les associations familiales catholiques à Toulouse, qui ne concerne pas que les Toulousains, loin s'en faut. Vous pouvez venir de loin même s'il faut. C'est samedi prochain de 9h à 17h, je redonnerai toutes les informations à la fin de cette émission. C'est en partenariat avec Radio Présence, Ombre et Lumière, la revue de l'OCH et même KTO, la chaîne catholique du câble. Dans cette deuxième partie, on va essayer de donner des clés à toutes les personnes qui seraient concernées, et donc elles seraient nombreuses, même si elles s'ignorent, puisqu'on disait au début de cette émission qu'il y avait 11 millions de personnes en France qui accompagneraient un proche dans une situation. Alors, on s'est dit qu'on allait essayer de faire simple au regard de vos expériences aux uns et aux autres. Alors, pardon, j'ai oublié de vous présenter. Autour du plateau, au début de cette émission, était avec nous Thierry Calva, sociologue et coach. Est avec nous Elisabeth de Beaurepaire, psychomotricienne, José Resson, diacre et aidant familial, et nous rejoindra à la fin de l'émission Benoît Pinxon-Ducel, lui-même aidant familial. La première chose, je me tourne vers vous, Elisabeth de Beaurepaire, c'est ce qui revient souvent quand on lit des témoignages, c'est les multiples sentiments qui traversent en fait la personne qui se retrouve en situation d'aidant familial. Peut-être pouvez-vous préciser, vous travaillez dans quel secteur? Vous êtes psychomotricienne en EHPAD, comme on dit, c'est ça?
Oui, tout à fait. Psychomotricienne en EHPAD, en maison de retraite médicalisée.
Dans deux maisons de retraite?
Dans deux maisons de retraite, donc deux mi-temps.
Dans le Lot, non, c'est ça?
Dans le Tarn,
pardon. Mm. Alors la première chose, et vous devez en croiser, c'est que souvent, on imagine par exemple pour les familles qui mettent des personnes âgées en institution, dans des EHPAD, il y a le sentiment de culpabilité. Alors comment est-ce que vous essayez peut-être de les aider à faire face à ce sentiment, de les accompagner?
Souvent la culpabilité des personnes qui placent, comme ils disent, leurs parents en institution... va être un sentiment d'abandon, la peur, enfin le sentiment de les avoir abandonnés, de ne plus s'occuper d'eux. Or, c'est souvent le dernier recours et c'est au moment où ils craquent finalement, qu'ils ont plus de ressources, ils peuvent plus s'en occuper comme ils voudraient, parce qu'ils ont plus les ressources nécessaires pour pouvoir s'en occuper vraiment comme ils en ont la nécessité.
Alors comment vous les accompagnez là-dedans dans ce sentiment de culpabilité? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses dont il faut, enfin, qu'il faut dire quand on est proche de ces personnes, des choses à suggérer?
On essaye déjà de les accompagner dans la relation en fait, qu'ils peuvent établir en dehors des soins et de l'accompagnement au quotidien. On leur montre que finalement leur parent est une personne qui a toute son identité, qui retrouve certaines, qui a perdu certaines capacités, oui, mais qui en a beaucoup d'autres, qui en développe d'autres du fait de la maladie. Et finalement, on leur apprend à voir leurs parents ou leur conjoint autrement, au-delà des. On les invite à redécouvrir l'être profond qui anime cette personne, au-delà des apparences qu'ils connaissaient avant. Ils connaissaient une personne qui avait telle et telle caractéristique, tel caractère, tel tempérament, qui réagissait de telle ou telle manière. Et ils sont déroutés parce que la maladie fait qu'ils ne réagissent plus de la même manière. Mais l'être profond est toujours là et en fait on les invite à le redécouvrir au-delà des apparences.
Donc là ce que vous me dites, c'est que la manière de répondre à la culpabilité quelque part, c'est changer un peu de focus. C'est-à-dire au lieu de se regarder, de regarder sa culpabilité, on essaie de regarder la personne et de voir qu'elle continue à avoir un projet de vie et qu'elle a juste changé, qu'elle a évolué, c'est ça?
Tout à fait. Et de les inviter à reconnaître qu'ils n'avaient plus forcément... de leur proposer un accompagnement différent en fait, pour la personne et de leur montrer que d'autres personnes... que peuvent aussi bien s'en occuper et que la personne du coup redevient disponible. Ils peuvent rétablir une relation, leur relation d'aidant, enfin non pas leur relation d'aidant, mais leur relation de parent-enfant, leur relation de mari-femme qui finalement a fait défaut pendant cette période d'épuisement avant la mise en institution.
Mmh, voilà. Alors, vous les aidez
José Resson, allez-y.
Vous les aidez à construire un nouveau projet.
Exactement.
Autour de la personne.
Exactement, à retrouver leur statut premier, leur relation première de mari-femme.
Alors il y a une autre, sentiment qui revient souvent, c'est la solitude. C'est pareil. Alors la solitude en maison de retraite, ça, bon, c'est un sujet, mais là on se tourne du côté des aidants familiaux. Même chose quand ils vous partagent ou les auditeurs qui seraient concernés, qu'est-ce que vous auriez comme conseil ou suggestion pour ce sujet? Déjà, c'est normal de se sentir seul, enfin.
Tout à fait. Et d'ailleurs, la solitude, on n'a pas besoin d'avoir son proche en maison de retraite pour ressentir la solitude. Il peut être avec nous et on la ressent tout autant parce qu'on a été dépossédé d'une qualité de relation qu'on avait avant et qu'on a du mal à retomber sur ses pieds. Mais c'est vrai que la solitude est plus forte encore quand la personne aimée est mise en institution. Parce que finalement, on perd aussi cette mission en fait qu'on avait auprès de la personne et qui prenait tout notre temps. Et du jour au lendemain, on lui a donné à cette mission toute sa vie en fait. Cette mission a pris tous les aspects de la vie. Et du jour au lendemain, on se retrouve seul face à soi-même. Et c'est encore plus douloureux quand on n'a pas pris le temps de nous avoir notre vie à côté, de développer des centres d'intérêt en dehors de la personne aidée finalement.
Alors des sentiments, il y en a bien d'autres qui peuvent nous traverser, on les abordera peut-être dans la dernière partie à l'occasion du témoignage. José Resson, par exemple, vous me disiez en préparant l'émission que bien souvent face à ces difficultés il y a aussi, on va dire, les phases normales du deuil, hein, la colère, la révolte, la tristesse, etc. Je vous propose d'avancer et d'aborder un autre point. C'est un point clé et d'ailleurs notre invité Thierry Calva du début de l'émission, donc sociologue et coach, en parlait dans une interview que j'ai parcouru. Il disait la chose suivante: on définit quatre grandes familles de besoins pour les aidants familiaux. Le besoin de ressources, de répit, de réseau et de reconnaissance. Si on commence par celui du répit, de ressources et de réseau pour faire face à la solitude, la grande clé, ça paraît tout simple en fait quand on est extérieur, c'est d'apprendre à pas gérer tout seul, d'apprendre à se relayer, d'apprendre à respirer. Alors même chose Elisabeth de Beaurepaire, je sais pas, quel est le conseil clé en la matière? Il faut rapidement, presque dès le début, accepter de pas gérer tout seul.
Oui, absolument. C'est
un réflexe presque à acquérir.
C'est un réflexe qui tient, je pense, de l'amour inconditionnel auquel on est dû envers les personnes de la famille, les proches, que ce soit un enfant qui est handicapé, que ce soit un proche qui développe une maladie psychique, un proche qui développe une maladie plus du grand âge. Il y a un amour inconditionnel qu'on doit relever finalement, et c'est difficile de...
C'est difficile en fait de ne pas se sentir redevable, c'est ça, ou du coup de lâcher prise dès le début, c'est...
En fait, oui.
Oui, puis on n'a pas toutes les ressources pour aimer inconditionnellement sans s'épuiser.
Exactement, l'amour à un moment devient volontaire finalement. Il devient presque ingrat parce que la personne n'est pas forcément capable de nous le rendre, ou elle nous fait du mal par la situation en fait, sa maladie nous fait du mal, et donc il est difficile de l'aimer vraiment pour ce qu'elle est, et on a besoin du coup de pouvoir prendre du recul régulièrement pour retrouver toutes ces ressources, pour pouvoir l'aimer comme elle en a besoin.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut penser à soi en premier. Charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est ça?
C'est un peu
alors,
ça.
Alors que l'autre, on a l'impression que l'autre est le premier à en avoir besoin.
Il faut savoir en fait, c'est ça, demander de l'aide, demander un relais pour pouvoir se ménager, pour que la personne ait aussi l'accompagnement qui soit optimal, parce qu'on a un proche qui développe une maladie, on ne sait pas forcément comment l'accompagner exactement.
On n'est pas médecin, infirmière, aide-soignante,
psychothérapeute
en même temps. Oui,
c'est ça, on a besoin d'être entouré de professionnels.
Oui, on a besoin de penser à son équilibre. De quoi j'ai besoin de se connaître et de quoi j'ai besoin pour mon équilibre. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que...
Ça veut dire dès les débuts, donc, penser à soi, penser à des relais. Et c'est quoi? C'est des relais professionnels, des relais amicaux?
Les deux, et même spirituels, des personnes qui prient pour nous, c'est important aussi. Tout à fait.
Donc dès les débuts, deuxième grande leçon, et on imagine qu'en fait c'est un travail qu'il faut faire au préalable, parce que sinon on attend en fait d'être au bout du rouleau pour accepter d'avoir besoin des autres, être probablement disposé à avoir compris qu'on est dans une forme d'interdépendance, même quand tout va bien, et du coup le jour J ça va mieux, en tout cas à vous entendre. La dernier point, et puis on y reviendra évidemment plus longuement aussi au fil de témoignages, c'est, et vous avez commencé à le dire, gérer le changement de la relation, en tout cas c'est ce qu'on m'a suggéré. Quand on a une épouse, et vous nous direz, vous, José Resson, qui devient malade, quand on a un enfant, quand on a un enfant qui naît avec un handicap, mais peut-être qu'il y a un accident, bref, quand la relation change, il y a un travail de deuil, on imagine. Là aussi, quels sont les quelques conseils clés que vous donneriez, Elisabeth de Beaurepaire?
Oui, il y a un travail de deuil, que ce soit dans toutes les situations, que ce soit parce qu'on... Voilà, c'est pas la relation qu'on avait rêvée, c'est pas la personne qu'on avait rêvée. On découvre une autre personne avec qui porte en elle-même des difficultés, une vulnérabilité.
Oui, et puis aussi le deuil de nos projets. Que ce soit un enfant, un époux, une épouse, on a fait des projets et puis ces projets, voilà, il faut y renoncer. Et en faire de nouveau. Il faut toujours s'adapter à la maladie, toujours s'adapter au bonheur de l'autre, mais toujours changer les projets.
Exactement. La maladie arrive dans un contexte particulier. La maladie arrive pendant le chemin de vie des personnes qui aident, avec leur vision de la maladie, leur vécu l'un avec l'autre. La maladie d'un conjoint arrive après tant d'années de vie commune où ils ont traversé... Ils sont passés par énormément d'étapes, ils ont réussi à construire ensemble quelque chose. Et parfois aussi, la maladie arrive sur des non-dits, des choses qui n'ont pas forcément été réglées avant et qui rendent la maladie encore plus complexe, parce qu'on s'aperçoit que, oui, il y a cette culpabilité qui est toujours là, mais qu'on reste peut-être seul aussi à partager.
On imagine que c'est le cas aussi dans les maisons de retraite, non ? On espère toujours que la fin de vie ou la dernière période de la vie, ça va être l'occasion de, parfois secrètement, de réconciliation, de dialogue, de grandes retrouvailles. Et puis ça se passe pas toujours comme ça. Comment vous accompagnez les aidants familiaux ou les personnes qui ont des proches en maison de retraite? Vous disiez qu'il y avait des projets, qu'on aidait en fait les personnes âgées à avoir un projet de vie en fait en maison de retraite. Est-ce que ça fait partie du projet de vie aussi d'essayer de faire en sorte d'avoir des meilleures relations familiales, voire de vivre des réconciliations? Est-ce que ça passe sa place dans les EHPAD?
Alors en EHPAD, nous on propose une écoute avec les psychologues. On les invite à porter un autre regard sur la personne qui est malade. Mais on va pas s'immiscer non plus dans les relations qu'ils peuvent avoir entre eux. On va pas, enfin c'est on laisse à chacun son histoire, donc on va pas forcément les accompagner là-dedans. C'est pas notre but, mais on propose finalement l'écoute et le regard, ce qu'on peut observer de la personne qui peut aussi les aider à la voir autrement.
Est-ce qu'on a tous besoin d'être plus ou moins accompagné par un psychologue aussi dans ces périodes? C'est quand même des choses qu'il faut encaisser. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet?
On a besoin d'être écouté par des personnes qui peuvent nous écouter en profondeur, avec un regard positif, et nous aider à voir des perspectives nouvelles. Voilà, on a tout, que ce soit un psychologue, que ce soit des amis, que ce soit un prêtre, mais on a tous besoin d'être écoutés. Écoutez, reconnu dans la difficulté qu'on vit en ce moment.
Exactement, parce qu'on passe pas mal d'étapes dans le deuil, finalement, et avec le déni, la colère, enfin, il y a beaucoup d'étapes à passer et qui nécessitent d'avoir une écoute vraiment objective et de pouvoir qu'on puisse vraiment dire les choses, les sortir pour que ça reste pas enfoui, finalement.
Allez, si on résume vos grandes pistes, qu'il y ait des sentiments difficiles qui vous traversent, donc culpabilité, solitude, révolte, etc., c'est bien normal. Il faut en parler. Voilà, il faut trouver des oreilles compatissantes, qui soient peut-être en écoute passive et active, un peu des deux. Ne pas hésiter à se tourner vers des professionnels et accepter dès le début que le meilleur pour la personne que l'on aide, c'est pas d'avoir quelqu'un qui est tout puissant face à elle, qui va lui-même être psychologue, aide-soignant, médecin et proche en même temps. C'est un résumé, mais vous nous direz le reste un peu plus tard. On fait une deuxième pause et puis on va vous retrouver à José Resson et Benoît Pinxon-Dussel. Vous allez nous expliquer ce que vous avez vécu et comment vous avez traversé ces difficultés. Je rappelle cette journée des aidants familiaux, aimer sans s'épuiser, c'est donc samedi 29 février prochain, de 9h à 17h à Toulouse, à la maison diocésaine du Christ-Roi.
Dans le Comminges, 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Aidants familiaux, aimer sans s'épuiser, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous étions en début d'émission avec Thierry Calva, sociologue et coach, auteur d'un ouvrage intitulé « Le droit à la vulnérabilité » paru aux éditions Michelon. Il est avec nous Elisabeth de Beaurepaire, psychomotricienne, José Resson, diacre et aidant familial, et Benoît Pinxon-Dussel. Vous êtes vous-même aidant familial, vous accompagnez votre fils Enguerrand, vous allez nous en parler, bonjour.
Bonjour.
Merci de prendre du temps pour être en plateau avec nous, même par procuration. Alors, je vais introduire votre situation et puis je vais vous laisser nous la décrire pour commencer un petit peu plus. Benoît Pinxon-Dussel, vous êtes donc père de 3 enfants. Vous avez un enfant donc qui est le dernier, si je ne me trompe pas, qui est un enfant porteur donc de la trisomie 21. Vous êtes donc considéré comme faisant partie des 11 millions d'aidants familiaux. Décrivez-nous un petit peu plus la situation et puis peut-être le choc qui a été pour vous de vous retrouver dans cette situation.
Alors effectivement, bonjour, je Enguerrand est arrivé, donc il a 14 ans, donc à ce moment-là j'étais père de famille avec 2 enfants. Bon, la grossesse a été un petit peu difficile, voilà, donc on peut peut-être estimer que c'est une préparation, mais il n'y avait aucun signe avant-coureur par rapport à la trisomie, et nous avons appris la trisomie, en fait, 2 semaines après la naissance d'Enguerrand, dans des circonstances en plus qu'on peut considérer comme tout à fait compliquées et anormales, voilà. Donc ça a été un choc extrêmement brutal, effectivement, parce qu'on ne s'y attendait absolument pas. Et je dirais, tous les repères qu'on peut avoir en tant que parents, avec toutes les projections qu'on peut avoir pour nos enfants, ça a été effectivement un choc extrêmement brutal.
Alors, je le disais un peu plus tôt dans l'émission, j'ai lu un article à propos des pères aidants familiales qui, souvent, sont peu dissertes sur ce sujet dans le cadre du travail, ont peur d'en parler, ont peur d'être stigmatisés, voire même que leur évolution professionnelle soit bloquée dans l'entreprise. Vous, ce statut d'aidant familial, comment vous avez géré le fait en entreprise ou ailleurs de petit à petit accepter que vous en étiez un?
Alors je dirais, j'ai la chance d'être d'être dans un couple et d'être très uni avec mon épouse. Pour mon épouse, qui en tant que mère, c'est extrêmement douloureux, extrêmement difficile pour elle. Donc je dirais, j'ai joué un petit peu le rock au niveau de la famille, et ça m'a permis effectivement de passer, d'avoir suffisamment de facilité, je dirais, pour passer outre ces difficultés. Et c'est quelque chose qui, pour moi, ne m'a pas posé de difficultés, d'en parler à la fois dans le milieu professionnel ou éventuellement dans le milieu, ou bien sûr dans le milieu amical. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu, je dirais, de façon que j'ai eu la chance de vivre de façon relativement naturelle à titre personnel.
Alors quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous avez fait face ou vous faites face, que voudriez partager aux auditeurs pour, on va dire, détendre ceux qui sont concernés et puis sensibiliser les autres?
Alors ce qui est important déjà, alors je dirais, il y a plusieurs phases. La première phase, ça a été effectivement le choc de la découverte, donc la découverte pour nous parents, mais aussi du coup pour tout notre entourage. Donc ça crée quelque part un tsunami qui génère dans l'entourage en fait une certaine incompréhension. Par rapport à la trisomie, on sait qu'un certain nombre d'enfants ne naissent pas, donc une des questions qu'on nous a posées, mais comment se fait-il qu'il ait pu naître? Donc vous pouvez imaginer en tant que parent, avoir ce retour-là, ça peut être extrêmement difficile parce que l'enfant est là de toute façon. Donc c'est une question qui n'est plus à poser. Donc il y a une forme d'incompréhension vis-à-vis de l'entourage à différents niveaux. Ce qui fait que au niveau des amis, mais également de la famille, le périmètre qu'on a autour de nous est complètement bouleversé. En fait, il y a des amis ou de la famille qui vont s'intéresser, qui vont même se passionner, qui vont essayer de nous aider, qui comprennent complètement la difficulté et qui nous soutiennent. Et il y en a d'autres qui, au contraire, vont s'écarter. Donc très rapidement, c'est des choses qu'on voit et qu'on ressent assez facilement. Et derrière, effectivement, on a notre orientation de vie qui évolue. Donc ça, c'est vraiment la première phase qui peut entraîner un sentiment de solitude. Alors c'est vrai que par rapport à un enfant, on a la chance d'être deux parents, ce qui n'est pas toujours le cas parce que dans certains cas, ça peut effectivement déclencher des difficultés au niveau du couple. De mon point de vue personnel, nous étions très unis, donc au moins nous étions deux. Lorsque l'un des deux a une faiblesse, ben, il se repose sur l'autre et vice-versa. Donc ça, c'est la première phase.
Là, vous parlez donc de la famille et des proches. Quid de la société française? On en parlait au début de l'émission. De plus en plus, donc, les aidants familiaux ont pas forcément un statut, mais enfin, on essaye de faire en sorte qu'ils passent pas sous les radars. On nous parlait donc au début de l'émission de ce congé donc qui maintenant est mis en place, qui a été voté par le gouvernement en novembre dernier. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être accompagné par les pouvoirs publics, soutenu? Et si
non,
oui, comment?
C'est vraiment un combat de tous les jours. Alors par rapport à Enguerrand, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes, mais on a été vraiment livrés à nous-mêmes au moment de la naissance d'Enguerrand. Il y avait tout un tas d'éléments médicaux à surveiller. On n'était pas au courant. On a appris ça en fait au fil du temps. Alors c'était il y a 14 ans, mais quand on a parlé de ça il y a 14 ans, on a dit mais ça c'est quelque chose qui n'existe plus. Et je suis convaincu que 14 ans plus tard, il y a des choses qui évoluent, bien entendu, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour progresser. Après, si on avance dans l'âge par rapport à Enguerrand, la scolarisation a été un combat de tous les jours pour arriver à scolariser notre fils dans le milieu ordinaire, ce qui était notre choix de vie. Ça a été des combats perpétuels.
Alors que normalement, il y a une loi qui a été votée depuis 2005 qui oblige les écoles à scolariser ses enfants.
Tout à fait, tout à fait. Il y a, alors, il se trouve que la loi est apparue, la loi a été votée au moment de l'année de la naissance d'Enguerrand, donc il a eu quelque part cette chance-là, mais il y a la loi et la mise en œuvre. Et c'est vrai que la mise en œuvre au quotidien, ça peut amener effectivement à aller jusqu'au tribunal pour faire valoir les droits. Les tribunaux sont là pour faire respecter la loi. Ça veut dire que il y a beau avoir une loi, elle n'est pas nécessairement respectée. Et donc, on a eu des réunions extrêmement compliquées au niveau de l'éducation nationale, au niveau du Conseil général, pour effectivement faire valoir nos droits. Et je me dis que j'ai la chance d'être une famille unie et d'avoir une certaine facilité, je dirais, intellectuelle et ou financière, mais toutes les familles n'ont pas ces capacités-là, et la société a encore d'énormes progrès à faire dans ce domaine-là. On a une société qui est quand même assez individualiste, et c'est vrai que ça peut être assez difficile d'avancer pour des familles qui sont un peu isolées.
On va passer à vous, José Resson. Alors vous avez été confronté donc deux fois dans votre vie à cette situation, puisque vous avez accompagné une fille porteuse d'un handicap. Mais j'aimerais qu'on parle de votre épouse. Donc votre épouse a été atteinte de la maladie de Charcot. Vous l'avez accompagnée dans cette situation. Déjà, vous pouvez commencer par nous redire, la maladie de Charcot, c'est quand même une maladie particulière et particulièrement difficile. Qu'est-ce que votre épouse donc avait, tout simplement?
Oui, une paralysie progressive qui a commencé par la main droite. Elle avait du mal à écrire. Et puis petit à petit, tout le corps s'est paralysé. Une des étapes difficiles, ça a été ne plus pouvoir avaler, ne plus pouvoir parler.
Et aujourd'hui, donc, elle est décédée.
Elle est décédée il y a un an.
Alors, comment vous avez accompagné votre épouse? Alors, on a l'impression, vous êtes par ailleurs diacre, vous accompagnez la pastorale des personnes handicapées pour le diocèse de Toulouse. Vous allez me dire si je me trompe, mais on a l'impression que vous avez eu tout de suite le bon réflexe, c'est-à-dire de savoir vous entourer, vous faire aider. Et puis, vous aviez, fort de votre expérience avec votre fille et de vos engagements, aussi peut-être un écosystème qui était très porteur. Racontez-nous comment vous y êtes pris.
Oui, et puis nos enfants, nos trois enfants qui restent, nous ont aidés à nous organiser. Beaucoup d'amis, de groupes de prière, voilà, quantité de personnes qui nous ont aidés. Et puis il a fallu passer par-dessus les fiertés et les hontes pour demander de l'aide.
Alors à quoi ressemblait cette aide concrètement? Vous aviez qui à vos côtés pendant ces mois de maladie avec votre épouse?
Oui, alors je suis encore étonné de toute l'aide qu'on a reçue. Même si elle était difficile à obtenir, il a fallu faire des démarches nombreuses. Mais nous avons trouvé un groupe d'infirmières qui se sont relayées trois fois par jour, une orthophoniste, un kiné pour les massages, une kiné respiratoire, une psychologue, une aide à domicile. Enfin, quantité d'aides qui nous ont été accordées et remboursées.
Ça, c'est côté pouvoir public.
Ah oui.
Voilà.
Et puis des amis qui m'ont relayé pratiquement un moment chaque après-midi et une journée par semaine pour pouvoir continuer à vivre quelque chose de mon ministère et trouver un équilibre dont j'ai besoin.
Alors vous direz que ça tient aussi à l'expérience que vous aviez eue avec votre fille, c'est-à-dire que vous avez eu le réflexe assez rapidement, peut-être plus facilement que d'autres,
oui,
de dire j'ai besoin d'aide?
Oui, bien sûr. Bien sûr, on mesure tout ce qui est nécessaire. Pouvoir vivre sans s'épuiser, sans s'énerver, sans se... Je me rappelle en particulier avec notre fille, un moment d'épuisement que j'ai eu dans les premières années. Elle était très angoissée, étant autiste, elle ne répondait pas à la relation. Et quand elle pleurait la nuit, je la prenais dans les bras, elle pleurait encore plus. Ça, je ne supportais pas. Un jour, je me rappelle, j'ai eu envie de la jeter par la fenêtre. Et voilà, donc je me suis dit vraiment, il faut que je trouve de l'aide et que je me fasse aider, sinon ça ne va pas aller.
Alors, pour finir, puisque l'émission passe vite, il y a une chose importante que vous vouliez dire. Alors, cette fois, c'est peut-être plus le croyant et le diacre qui parlent. Vous me disiez, en préparant l'émission, que on peut légitimement être très inquiété de faire face à de telles situations, mais que la peur est parfois mauvaise conseillère. On ne sait pas toujours qu'on va être largement secouru ou soutenu, ou même des grâces qu'on va recevoir. Expliquez-nous ça.
Tout à fait. Le handicap fait peur, la maladie fait peur, la mort fait peur aussi. mais on n'a pas à l'avance les forces ni les grâces pour vivre ce qu'on aura à vivre, mais cela nous est donné. Si on accueille la maladie, si on accueille que c'est un chemin d'amour qui nous est donné, qui est un chemin qui nous ramène à l'essentiel, à aimer la personne dans tout ce qu'elle est, même dans sa pauvreté, on grandit dans l'amour. En même temps que les difficultés arrivent progressivement, en même temps on peut grandir dans l'amour, dans l'accueil de ce qui nous est donné, ce que Dieu nous donne jour après jour.
Allez, on va finir maintenant comme ça. Ça va me laisser le temps de donner un certain nombre d'informations pratiques à la fin de cette émission. Donc, je le rappelle, cette journée dont Radio Présence est partenaire, entre autres comme KTO et la revue Ombre et Lumière, en partenariat avec l'Office chrétien des personnes handicapées et les associations familiales catholiques, c'est donc samedi prochain à Toulouse, à la Maison diocésaine du Christ-Roi. Le mieux est de vous inscrire. Journée des aidants, journeedesaidants@och.fr et un numéro de téléphone. 06 64 89 06 25, je répète, 06 64 89 06 25. On peut donner, pour ceux qui aussi ne pourraient pas se rendre à cette journée, 2-3 pistes. Une piste, c'est de vous tourner vers les associations familiales près de chez vous, voilà, qui vous donneront certainement un certain nombre de conseils et d'associations. Sinon, vous appelez l'OCH à Paris, Office chrétien des personnes handicapées, l'OCH qui est on va dire, de multiples ressources. Et enfin, je voudrais donner un numéro de... je voudrais inciter à vous tourner vers un autre service. Ça s'appelle Avec nos proches. Et il y a un site internet et un numéro de téléphone. Avec nos proches, c'est une association qui aide les aidants familiaux, qui les aide à trouver des solutions et à prendre du répit. Un seul site internet, www.avecnosproches.com. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez écouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.